J'aimerais regarder avec vous ce matin un texte biblique tout à fait extraordinaire. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à la lecture biblique, ou pas encore habitués à la lecture biblique, vous allez être étonnés par la beauté, par la force et par l'impact que ce texte, dans la mesure où vous le recevez, va avoir dans votre propre vie. Nous lisons donc le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je, loin de ton esprit? Où fuirais-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Quel passage! Chaque texte biblique comporte une révélation de la nature des attributs de la personne de Dieu. Chaque texte biblique, si nous le regardons bien, il y a toujours quelque chose qui émerge qui nous permet de connaître mieux le Seigneur. Le but de nos cultes du dimanche matin, c'est que nous puissions mieux connaître Dieu en sortant qu'en arrivant. Que nous puissions comprendre, saisir et apprendre quelque chose. Et j'espère que ce texte ce matin vous donnera l'occasion de le faire. Ce texte absolument extraordinaire, inspiré du Saint-Esprit, comme tous les textes de la parole, inspiré du Saint-Esprit par une personne qui n'était pas parfaite. Il nous est dit que c'était David qui l'a écrit et connaissait la vie de David, il n'était pas parfait. Mais le texte a été inspiré par le Saint-Esprit et le texte est parfait. Car David, qui a écrit ce texte, avait une communion avec Dieu. Le but de l'Église, c'est que notre communion avec Dieu soit encouragée. C'est que nous puissions découvrir une communion avec Dieu. C'est que nous puissions non pas avoir une religion, mais une communion avec Dieu, une relation avec lui. Et que nous puissions ainsi grandir dans la connaissance et la communion avec lui. Un joyau de l'Ipsaume, 24 versets, qui sont divisés en 4 strophes de 6 versets chacun, afin de nous donner des vérités extraordinaires, des vérités fondamentales pour notre vie, notre foi, notre équilibre. 4 fois 6 versets. La première strophe parle de la science de Dieu qui nous dit « Je connais tout de toi ». Deuxième strophe nous parle de la présence de Dieu « Je vois tout, y compris tout ». Ton cœur, tes motivations et tout ce qui te préoccupe. Ensuite, il y a la sagesse de Dieu. Je t'ai créé, j'ai un plan pour toi. Je connais ton corps, je sais exactement de quoi tu es constitué. Et puis, il y a à la fin quelque chose qui sera ma conclusion. Nous parlerons de la sainteté et de la justice de Dieu. Avançons tranquillement dans la découverte de ces merveilleux textes bibliques. N'est-il pas extraordinaire de voir que David parle de son expérience. Il ne fait pas une thèse théologique, il parle de son expérience. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Dans ces 24 versets, vous trouverez 48 fois le pronom personnel, « je » ou « me ». C'est une relation. Ce n'est pas le Dieu infini, mais c'est le Dieu infini qui s'est révélé à moi. C'est ce Dieu qui désire un contact avec moi. Il est avec moi, je suis avec lui. Il me sonde et moi je le cherche. Il me connaît et moi j'aimerais le connaître davantage. C'est ce « je tu », ces pronoms qui sont très forts dans ce texte du psaume 139. Et ce texte, cette première strophe nous dit que Dieu connaît toutes choses. Toutes choses sont comme un livre ouvert devant lui. Votre vie, chers amis, c'est un livre ouvert devant Dieu. Il n'y a rien de secret pour lui dans votre vie, rien du tout. Tout est connu parfaitement. Il est celui qui a un scanner haute définition et il passe notre vie en revue et il connaît toutes choses. Rien n'est caché pour lui. Il voit toutes choses en permanence. Mon activité, mes pensées. Tu me sondes, tu me connais, tu pénètres de loin ma pensée. Qui peut me connaître à ce point-là? Ce qui me touche toujours, c'est de voir des personnes qui viennent dans l'église et qui disent « Dans cette église, Dieu m'a parlé personnellement. » Je pense à cette personne qui me disait « Mais nous, on a fait le tour des églises et on est resté là parce que le matin où on est venu, il y a eu une parole qui a été comme un gant sur notre main sans que la personne puisse connaître ce qu'il y avait. La parole prophétique ou la parole de connaissance a été un message tellement précis, comme coupé au scalpel, prévu pour la situation, une salutation personnelle que Dieu a donnée à une personne qui avait besoin d'entendre cela juste ce jour-là, touchée par la présence de Dieu, touchée par la précision de la connaissance du Saint-Esprit par rapport à la situation donnée, ces personnes ont été touchées, interpellées, et ils sont restés, ils ont avancé avec Dieu. Mes amis, attendez-vous, quand vous venez à l'église, que Dieu vous parle. Si vous vous attendez à rien, ne vous étonnez pas que vous repartez les mêmes, mais attendez-vous à quelque chose. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle, et puis attendez-vous aussi à être utilisé par Dieu, car Dieu peut passer par vous pour faire passer ses dons de connaissance et ses paroles prophétiques vers quelqu'un qui en a grandement besoin. Mes amis, j'aimerais vous dire que dans cette église, il y a des vies qui ont été sauvées comme ça. Il y a eu quelques paroles, j'en connais en tout cas deux, qui ont été données où une fois le Seigneur a révélé que quelqu'un avait une arme sur lui. Et parce que ça a été révélé, la personne n'a pas commis le suicide qui était prévu de faire. C'est authentique. Une deuxième fois, la parole a retenti, ce que tu as prévu de faire hier soir, ne le fais pas. Et cette personne a décidé de ne pas avorter suite à cette parole. La parole de Dieu, la parole de connaissance, Dieu qui nous sonde et qui nous connaît, peut épargner votre vie. Peut construire votre vie, peut orienter votre vie, peut redonner une nouvelle orientation, un nouveau choix pour votre vie. Dieu vous veut du bien, mes amis. Il a une parole parce qu'il nous connaît et désire montrer et nous encourager par une parole de connaissance, justement, par quelque chose qui touche notre vie, qu'il s'intéresse à ma vie. Non, je ne suis pas un numéro parmi 7 milliards sur la terre. Je ne suis pas un grain de poussière qui est perdu dans l'univers. Je compte pour le Seigneur. Je suis précieux pour lui. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Seigneur, mais je ne suis qu'une personne parmi 7 milliards. Comment veux-tu que... Mais le Seigneur te dit, je te connais personnellement. Et tous les détails de ta vie m'importent. Les détails de votre vie sont précieux pour le Seigneur. Le Seigneur dirige et veut parler par le Saint-Esprit. Je ne peux pas imaginer une église où il n'y a pas le Saint-Esprit. Moi, je n'aimerais pas être pasteur de cette église-là. Je crois que je changerais. Mais pourquoi est-ce que je reste ici? Parce que j'aime la présence du Saint-Esprit. J'aime la présence du Saint-Esprit. J'aime quand le Saint-Esprit est à l'œuvre. Car sans lui, il ne se passe rien. Mais avec lui, les choses se mettent en place, il se passe quelque chose, les gens sont transformés, les gens sont touchés, transformés. Et c'est ça que j'aime. Le prophète Élisée avait une telle oreille attentive et il était comme connecté au scanner de Dieu parce que lorsque l'armée des Syriens qui était en opposition avec Israël à ce moment-là cherchait stratégiquement à prendre Israël avec une stratégie secrète, eh bien, chaque fois qu'ils essayaient de mettre en mouvement leur stratégie, ils remarquaient que les Israélites, de ce temps-là, étaient au courant. Et le roi de Syrie va dire, mais attends, il y a un traître parmi nous. Quelqu'un a vendu notre stratégie à l'ennemi. Et puis, il y a un homme qui vient, mais il sourit, il dit, mais non, mais les autres, ils ont le prophète Élisée. Et Élisée, il entend ce que Dieu lui dit, et il est au courant de ce que toi, tu racontes dans ta chambre à coucher. Ça, c'est la parole de connaissance. Ça, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Seigneur, tu me connais. Et cela nous encourage, chers amis, à vivre dans la lumière. Parce que comme on ne peut pas cacher quelque chose devant Dieu, nous sommes encouragés vivement ce matin à vivre dans la lumière. Permettez-moi de vous raconter cette histoire authentique. Ça s'est passé dans une église dont je connais le pasteur. Ce n'est pas ici en Suisse. Dans un culte, un matin, une jeune fille de 16 ans s'approche du pasteur et dit « Pasteur, j'ai mon cœur qui bat très très fort, j'ai besoin de dire quelque chose. » Et comme cette fille n'avait jamais exercé un don de prophétie, elle est venue trouver le pasteur et le pasteur a dit « Mais raconte-moi vite ce que tu aimerais dire, mais je sens tellement que Dieu aimerait dire « Je vous aime. » Ah ben, c'était pas bien compliqué, hein, on va dire comme ça. Comme c'était la première fois, alors elle a pris courage et elle dit, mais ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un de manière spéciale, je t'aime, mon enfant. Alors elle est venue s'asseoir et l'après-midi, il y a le téléphone qui sonne chez le pasteur. Un homme, 51 ans, raconte sa vie et dit, écoutez, ce matin, j'étais chez vous au culte. Il s'est passé quelque chose que j'aimerais juste vous relater en quelques instants. Il dit, racontez-moi votre histoire. Il dit, j'ai 51 ans. Je suis maintenant divorcé une fois et mon couple ne va plus du tout. J'ai été licencié, je suis cadre supérieur. Il n'y a plus rien qui va depuis des mois. Je suis arrivé au bout du rouleau et j'ai pensé hier soir, j'étais tellement entouré de ténèbres que je voulais prendre un tube de médicaments et m'ôter la vie. Et quelque chose est venu sur moi et m'a dit, va dans une église demain matin. Et il a ouvert l'annuaire téléphonique, il a passé son doigt sur la colonne des églises. Son doigt s'est arrêté quelque part et il est allé dans cette église-là. Et il avait dit, Seigneur, si tu me dis que tu penses à moi et que tu m'aimes, je le croirai. Ce matin-là, une jeune fille de 16 ans a simplement dit, Jésus t'aime. Cette parole a été envoyée comme une flèche, est arrivée dans la foule anonyme, dans le cœur de cette personne qui était au bord du suicide, un cadre supérieur où il n'y avait plus rien qui allait. Et cette parole a généré dans cet homme un espoir. Il a dit, Dieu pense à moi, Dieu est ici. Maintenant, je suis convaincu de la présence de Dieu. Il a pris le téléphone pour raconter ça au pasteur. Cet homme a été sauvé ce jour-là par une parole. Une parole de Dieu peut sauver votre vie. C'est authentique. Alléluia. Le Seigneur connaît toutes choses. Dès la fondation du monde et avant ma naissance, il sait quand je me lève, quand je me couche, il sait comment je me sens, il connaît mes préoccupations. Dieu est le seul être à qui je n'ai pas besoin de dire « Tu comprends ce que je veux dire ? Tu comprends ce que je vis ?» Vous savez, quelqu'un qui n'est pas compris, il se sent tellement seul, n'est-ce pas vrai ? On se sent tellement seul. On a l'impression que personne ne nous rejoint, personne ne nous comprend vraiment. Un mari ou une femme arrivait chez quelqu'un qui faisait la relation d'aide et dit « Mais ah, mon conjoint ne me comprend pas. Il ne me comprend pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne me sens pas compris par mon conjoint. J'ai l'impression que mon mari, je fais le tour comme je fais le tour d'une île, mais je n'accoste jamais. Je tourne autour et j'essaie de comprendre, mais je n'arrive pas à le rejoindre. Je n'accoste jamais avec ma barque autour de l'île. Si vous n'êtes pas compris par des gens, Dieu vous comprend parfaitement. Ils sont de nos préoccupations, ils sont de nos pensées. Il nous connaît de fond en comble. Alors détendons-nous ce matin, que tu me connaisses à ce point, nous dit le verset 6, est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Et ce texte est tellement beau parce que non seulement Dieu nous comprend, mais il met sa main sur nous. Est-ce que vous aimeriez avoir la main de Dieu sur vous? Est-ce que cette main vous gênerait ou est-ce que cette main vous rassurerait ce matin? Si elle vous gêne, demandez pourquoi ça vous gêne. Questionnez le Seigneur, pourquoi est-ce que je n'aime pas avoir ta main sur moi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de ça? Ou bien au contraire, vous dites, Seigneur, je suis tellement content que ta main m'entoure et que ta main me protège et que ta main me dirige et que je puisse avoir le chemin ouvert parce que ta main m'ouvre le chemin. Il posa sa main droite sur moi et dit, ne crains rien. Mes amis, quel privilège, quelle force d'avoir la main de Dieu sur sa vie. Réjouissez-vous de ce que la main de Dieu est sur vous. Juste dire, Seigneur, quelques instants, Seigneur, merci pour ta main sur ma vie. Et elle est devant moi pour m'ouvrir le chemin, elle est derrière moi pour me protéger, elle est en dessous de moi pour me porter, elle est sur moi aussi pour m'élever le jour où tu viendras me chercher. La main me prendra et hop, c'est parti pour l'éternité. La mort n'est qu'un passage. La strophe suivante suit dans la foulée de la strophe 1 où il est dit « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ?» Dieu est toujours intéressé de savoir où nous sommes et où nous en sommes. Où nous en sommes. Dieu était inquiet lorsque Adam n'était pas à son endroit habituel au jardin d'Éden. Lorsqu'Adam n'était pas là où il avait l'habitude d'être, il était en communion avec son Dieu, il était content d'être là pour parler avec Dieu. Mais à un moment donné, Adam était absent. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le chercher. Adam, où es-tu? Dieu est lumière, il sait où tu es, mais il te cherche quand même. Et même si toi, tu sais où est Dieu, il t'invite aussi à le chercher. Lui te cherche et toi, tu dois le chercher et vous allez vous trouver. Mais s'il n'y a aucun intérêt de notre part de chercher Dieu, ça ne suffit pas que Dieu simplement nous cherche. Il nous donne des signes, il nous donne des balises, il nous donne des encouragements. Il y a des gens qui ont reçu 1000 témoignages que Dieu s'intéressait à eux, que Dieu les a protégés, que Dieu a fait quelque chose pour eux. Ils peuvent raconter 1000 histoires différentes, mais eux-mêmes n'ont jamais pris une décision et ils ne seront pas sauvés pour autant. Ce n'est pas parce que vous avez été guéri que vous êtes forcément sauvé. Ce n'est pas parce que vous avez reçu un miracle dans votre vie que vous êtes forcément sauvé. Vous devez chercher Dieu, vous repentir de vos péchés et approcher Dieu dans la foi. Dieu peut faire 1000 pas vers vous, mais vous devez faire le pas de la foi vers lui. Sinon, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réconciliation. C'est indispensable, non seulement d'être au bénéfice de la grâce de Dieu, mais aussi de saisir la grâce et de venir personnellement chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu m'as donné 1000 signes d'encouragement. Et ce matin, le fait que je sois là, c'est un encouragement. C'est encore un pas que Dieu fait vers vous en toute délicatesse, avec sa douceur et son tact. Il vient vous toucher, il ne vient pas vous assommer, il vient vous toucher avec délicatesse. Mais c'est afin de gagner votre cœur. Chers amis, est-ce que vous êtes d'accord de laisser votre cœur être gagné par lui? Laissez votre cœur être gagné, parce qu'il vous veut du bien. Et aimer Jésus, c'est la plus belle chose qui existe. Aimer Dieu, aimer Jésus, le connaître, c'est ça. Seigneur, où es-tu? Je te cherche. Je pense à ce pasteur que j'ai connu au Danemark, qui était un fils de ceux qui ont connu les réveils des années 30 au Danemark. Et ce fils avait tellement vu son père prêcher qu'à un moment donné, il est devenu un ado rebelle. Et il a fait sa vie. Et quand il était entre 15 et 25 ans, il était toujours en train de faire la... Il était en train de fuir. Où fuirais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je couche au séjour des morts, et voilà. Si je veux me cacher dans les ténèbres, je ne peux pas fuir. Et il a dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? Il était dans la nature en train de crier, Dieu, laisse-moi tranquille. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas tranquille? Parce que ses parents priaient pour lui. Si vous priez pour quelqu'un qui est en train de fuir, alors que Dieu le voit, on est bien d'accord. Mais quelqu'un qui est en fuite, priez pour lui, sa conscience ne sera pas en paix, jusqu'à ce qu'il ait fait la paix avec Dieu. Je pense à cette jeune fille qui disait, chaque soir, dans ma vie où j'avais cassé les ponts avec mes parents, j'étais loin, et je voulais vivre ma vie comme je voulais choisir moi ce que je voulais, etc. Mais aucune nuit je m'endormais tranquille, aucune. Sa conscience restait en éveil. Pourquoi? Parce que ses parents priaient constamment pour elle. Chers parents, votre vie de prière a de l'efficacité. Elle est puissante. Et ceux qui sont en fuite sont touchés, atteints par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas les toucher, mais le Saint-Esprit peut les toucher. Le Saint-Esprit peut les toucher. Un chrétien en fuite est connu de Dieu. Même si je vais habiter au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Je pense à ce pasteur découragé, c'était un évangéliste, il était découragé, il avait laissé tomber toute chose parce qu'il n'avait plus d'argent, il avait été calomnié, il n'avait plus rien allé, découragé. Il s'en va, il prend la voiture, il va à l'autoroute, il s'arrête dans une station d'essence. Il passe près d'une cabine publique à la station d'essence. En passant devant, il entend cette cabine, il entend le téléphone qui sonne. Incroyable. Le téléphone sonne dans une cabine à une station d'essence sur l'autoroute. Comment est-ce possible? C'était juste impossible. Personne ne téléphone à une cabine téléphonique, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Il passe devant, ça sonne. Il me dit, mais... Et ça sonne encore, ça sonne. Ça ne n'accroche pas. Il entre, Dieu vous cherche. Et puis ça a été raccroché. Dieu, je me cherche de différentes manières. Authentique, cette histoire. Si je monte aux cieux, tu y es. Vous savez qu'en 1961, le premier cosmonaute qui est parti avec son Spoutnik s'appelait Yuri Gagarin. Et lui a été, par après, un ambassadeur de l'athéisme incroyable. Il a dit, je suis monté dans l'espace et je n'ai pas vu Dieu, donc Dieu n'existe pas. C'était à l'époque un peu simple, mais comme il s'appelait Yuri Gagarin et qu'il était le premier à avoir monté l'espace, tout le monde le croyait, et ainsi il partait. Donc un jour, il est arrivé dans une de ses conférences en Indonésie, et il disait donc que Dieu n'existait pas, et quelqu'un l'interpelle en disant, vous dites que Dieu n'existait pas. Oui, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Mais si vous étiez sorti de votre Spoutnik à ce moment-là dans l'espace, vous auriez vu d'une manière évidente que Dieu existe. Là aussi, ta main me conduira. On ne peut pas emprisonner le Seigneur. Je ne veux pas fuir de lui, mais je veux me réconcilier avec lui, je veux le chercher, puisque lui prend tellement de soin de chercher cette brebis perdue que j'étais, tellement il a mis les choses en place, il a mis tellement d'emphase pour me chercher moi personnellement, parce qu'il me connaît parfaitement, et il a mis les circonstances en place pour un jour vraiment gagner mon cœur. C'est une grâce. Il veut le faire pour chacun de nous ce matin. Ne soyez pas un chrétien en fuite. N'allez pas habiter à l'autre bout de la mer ou de la terre ou n'importe où en fuyant Dieu ce matin. Cessez votre fuite. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Réconciliez-vous avec lui. Il est là, il est présent. Il nous faut aller de l'avant. Je vais être assez bref pour la troisième strophe extraordinaire et qui nous connecte à cette présentation d'enfant où Dieu dit, mais... Je t'ai créé alors que tu n'étais qu'un embryon dans le sein de ta mère. J'avais déjà noté tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Nous avons un nombre fixe de nos jours. Personne ne connaît ce chiffre. Même si vous tapez sur l'ordinateur « recherche de la date de ma mort », moi je ne l'ai pas fait, hein, mais je sais que ça existe. Ne jouez pas à ça. Ne laissez pas des esprits de crainte vous manipuler, vous emprisonner. Ne jouez pas à n'importe quoi. Mais nous avons tous un nombre fixe. Et il vaut mieux ne pas le savoir. Il vaut mieux pas le savoir et vivre tranquillement dans la paix, jour après jour, en suivant le Seigneur et en faisant sa volonté pleinement. Sans fuir, mais en étant en communion avec lui. Seigneur, je me réjouis de cette journée que tu as préparée et je vais être actif pour toi, je vais être un témoin pour toi, je vais faire mon travail aujourd'hui avec joie et je me réjouis de te connaître. C'est ça que Dieu veut, jour après jour, dépendre de lui parce que sa main me dirige, sa main m'entoure, son esprit me dirige, je suis gardé, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi chercher midi à 14h? Pourquoi chercher des choses qui ne sont pas utiles pour nous? Quelqu'un me disait, mais... C'est compliqué la vie. On n'a pas besoin de tout comprendre, mes amis. On n'a pas besoin de tout comprendre. Suivons le Seigneur au jour après jour, dans la simplicité, la foi et la confiance. Et la vie est plus simple. Il y a des personnes qui lisent jusqu'au verset 14, puis ils disent « Je te célèbre de ce que je suis une créature merveilleuse. » Ils ont de la peine à dire ça. Ils lisent tout, tout va bien, jusqu'au verset 14. Ah, cette créature merveilleuse, ça vaut pour les autres. Eux, ils ont tout. Ils sont bien, ils n'ont pas de problème avec leur corps, mais moi, quand je me regarde au miroir, j'ai un problème. Ce matin, nous voulons être libérés de ça aussi. Ne vous conformez pas aux standards de ce monde. n'est pas les autres qui doivent dicter à quoi vous devez ressembler. Soyez bien dans votre peau, soyez libérés, soyez encouragés. Le Seigneur vous aime, le Seigneur nous considère comme des créatures extraordinaires. Il faut prendre soin de son corps, il faut soigner son corps correctement. Mais nous sommes des créatures extraordinaires et nous devons nous réjouir en étant réconciliés avec nous-mêmes, en étant nous-mêmes bien dans notre identité d'homme et de femme, de jeune et de personnes âgées. Maintenant, j'arrive à la conclusion et c'est là que je veux en venir. Pourquoi, à partir du verset 19, il y a un changement tellement incroyable dans ce texte? Alors qu'on s'est émerveillé jusqu'à présent de ce que Dieu sait tout, de ce qu'il connaît tout, de ce qu'il est présent partout et de ce qu'il a créé toutes choses avec un but, mon corps, ma vie, mon projet de vie, etc. Pourquoi est-ce que maintenant, David, l'homme de Dieu qui s'est émerveillé de cette relation, pourquoi est-ce que maintenant, il dit « Homme de sang, écartez-vous, j'ai pour vous une haine parfaite, ils sont mes ennemis, ceux qui ne sont pas en accord avec toi. Que se passe-t-il vraiment ?» Alors qu'il est dit dans le Nouveau Testament, mais bénissez vos ennemis, pas haïssez vos ennemis. Pourquoi est-ce que David, il y va tellement fort dans l'autre sens maintenant pour s'attaquer aux ennemis de l'Éternel ? Mes amis, savoir tout cela, je l'ai déjà dit, savoir que je suis connu de Dieu, que je suis accompagné, que Dieu me voit partout, etc., cela ne suffit pas pour plaire à Dieu. Ce n'est pas une garantie pour une vie agréable. Beaucoup d'incroyants le savent aussi, mais ils ne conforment pas leur vie à la volonté de Dieu pour autant. Ils sont connus de Dieu, mais ils ne cherchent pas à le connaître. Dieu les voit et ils le savent, mais ils se plaisent dans les ténèbres. Ils sont en fuite. Ils sont une créature merveilleuse et ils le savent très bien, mais ils n'offrent pas leur corps comme un sacrifice vivant en réponse à l'amour de Dieu. Nous pouvons savoir un tas de choses, mais cela n'a aucune importance pour notre vie. Cela ne nous change pas. Il nous faut être réconciliés avec lui. Il nous faut être en contact avec lui pour être transformés par son esprit. Une connaissance ne nous sauve pas. Une connaissance nous conduit à être attirés par le Seigneur. Et là, nous avons un rendez-vous avec lui. Ce matin, vous avez un rendez-vous avec lui. Vous devez vous réjouir de ce que vous êtes émerveillés par la présence de Dieu, de tout ce que je viens de dire auparavant, de ce psaume. Il nous donne tous les détails nécessaires pour nous émerveiller. Mais ce matin, c'est le moment d'une rencontre, d'une mise au point, d'une réconciliation, d'une repentance, afin de changer de vie. Tout cela doit m'amener à dire « Seigneur ». Et c'est la conclusion, c'est la prière finale. « Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, regarde où j'en suis. » Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la bonne voie, Seigneur. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'était la prière, parce que David aussi, lui est devenu à un moment donné un ennemi de Dieu par son comportement. Lui aussi avait besoin de revenir à Dieu. Il avait bien commencé, mais il y a eu des dérapages dans sa vie qui étaient graves. Mais il est revenu par une repentance. Ce matin, il faut revenir à Dieu. Il faut pas être, parce que nous pouvons être par notre vie des ennemis de la volonté de Dieu. Ce matin, ne soyez pas ennemis de la volonté de Dieu, aimez la volonté de Dieu. Recevez ce matin cette révélation, afin que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit, que nous puissions voir les choses dans la perspective de Dieu. Ce Dieu qui me connaît, c'est aussi le Dieu de justice. Ce Dieu qui me voit, c'est aussi le Dieu de la sainteté. Et je ne peux pas me plaire en étant en opposition à cela. C'est pourquoi les ennemis de la volonté de Dieu, ça me dérange, je ne peux pas coopérer avec ça, je ne peux pas me complaire avec les ennemis de Dieu. Je peux prier pour eux, je peux les aimer, oui, mais je ne peux pas me complaire, non. Pourquoi David dit, je les hais d'une parfaite haine. À son niveau, il disait, ça me dégoûte ce qu'ils font. Ils savent plein de choses, mais ils ne font pas. Ils sont en opposition à Dieu, et ils ne font pas sa volonté. Je ne veux pas être dans cette situation où d'un côté je connais Dieu, je me sais guidé par lui, je me sais béni par lui. Et en même temps, je me complais dans les choses qui sont contre sa volonté. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Il faut maintenant que cette vie de Dieu autour de moi rentre en moi pour changer mon cœur. Avez-vous reçu la vie de Dieu, non pas autour de vous, mais en vous? Avez-vous reçu la vie de Dieu en vous par le Saint-Esprit? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, ce matin, recevez. Recevez la vie de Dieu afin que vous puissiez aimer ce que Dieu aime et que vous puissiez aussi haïr ce que Dieu est. Nous voulons accepter et approuver et applaudir ce que Dieu aime, là où il est d'accord. Mais nous voulons en même temps être affligés lorsque nous voyons que sa volonté est piétinée. Lorsque sa volonté et ses principes sont violés, nous ne pouvons pas être à l'aise avec ça, non. Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, afin que ma vie reste sur le chemin étroit. Dans le nom de Jésus, amen.